Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous apprenant, en vous rappelant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands ou les petits écrans depuis maintenant un sacré bout de temps, même que j'étais pas né, c'est vous dire. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien nous allons consacrer notre émission à un monstre comme le cinéma l'a beaucoup utilisé. Et en fait, monstre n'est pas forcément le terme approprié puisque Frankenstein, c'est de lui qu'il s'agit, fut l'objet de bien des trahisons depuis l'écriture du roman initial dont je vous apprendrai ou je vous rappellerai qu'il a été écrit en 1816, et oui, vraiment au tout début du 19e siècle, en 1816, par Mary Wollstonecraft Shelley, la jeune femme du poète anglais Percy Shelley, à une époque donc on pouvait s'appeler Percy de son prénom, une jeune femme qui n'avait que 19 ans, le croiriez-vous aussi, au moment où elle écrivit un roman dont le titre exact est, en tout cas dans sa traduction française, Frankenstein ou le Prométhée moderne, puisqu'en fait la confusion fut souvent, mais Frankenstein c'est le nom du créateur de la créature et non pas de la créature elle-même qui n'a pas de nom, puisque c'est une créature. D'ailleurs, et je vous conseille de lire le roman, c'est la dite créature qui écrit son histoire dans le livre. Chose qu'à ma connaissance, on n'a jamais vue au cinéma, mais qui en dit assez long sur la perversion de certaines adaptations qui vont faire, et on va les évoquer, de la créature un personnage à la fois monstrueux et complètement stupide, ce que de fait, elle n'était pas dans le roman de Mary Shelley, roman qui connut dès sa parution un considérable succès et qui fut adapté très rapidement au cinéma. Alors, peut-être l'a-t-il été pendant le cinéma muet, mais en tout cas, je n'en ai pas gardé trace. Par contre, dès le début du cinéma parlant, eh bien, il y eut l'adaptation que l'on considère dans les cénacles comme séminale. J'aime pas trop le terme séminale, mais c'est comme ça qu'il faut la qualifier. Évidemment, celle, quand on pense à Frankenstein, en tout cas dans ma génération, on voit Boris Karloff qui fut en 1931 l'interprète du monstre. C'est écrit dans ma petite fiche de la créature. Ce sera préférable dans un film de James Whale, qui réunissait la fine fleur des studios Universal, spécialisés à l'époque dans le film d'horreur, ou en tout cas adapté, puisqu'on retrouvait Jack Pierce au maquillage, le fameux maquillage de Boris Karloff. On retrouvait aussi à la production Karl Lemne, un nom qui ne vous dira rien, mais un producteur qui compta beaucoup pour donner une identité visuelle à tous ces films de l'âge d'or de la Universal, qui, je dirais, recycla tous les grands mythes horrifiques, vampires, loups-garous et autres créatures. Et bien sûr, il en était ainsi pour le monstre de Frankenstein. On va écouter un tout petit extrait de la bande originale, mais on ne pouvait pas faire autrement à aller signer de Frank Waxman, Frankenstein. 24 notes secondes.
Here's to a son, to the house of Frankenstein.
Voilà, désolé, c'est de mauvaise qualité, ça dure pas très longtemps et vous l'avez compris sans doute, c'était le générique de fin de Frankenstein, le premier film vraiment marquant consacré à ce mythe littéraire qui va devenir dans les années qui suivent, dans les dizaines d'années qui suivent, un mythe cinématographique tout aussi bien, un film réalisé par James Whale avec dans le rôle principal un certain William Henry Pratt qui avait tourné déjà, dit ma petite fiche, 70 films, mais c'était au temps du muet, donc peut-être qu'il s'agissait de bandes assez courtes et qui instantanément instantanément devint Boris Karloff et resta pour tous à la fois l'interprète principal d'un film qu'il considère lui-même comme le meilleur qu'il ait jamais tourné. Et on sera à peu près d'accord avec la chose, avec une petite nuance, c'est que très rapidement, devant le succès colossal du film, il y eut une suite, enfin très rapidement, 4 ans plus tard, donc c'est pas forcément très rapidement au rythme cinématographique, il y eut une suite signée à nouveau James Whale, avec à nouveau Boris Karloff dans le rôle principal, et aussi, alors lui par contre on l'a bien oublié, Colin Clive dans le rôle du baron Frankenstein, celui qui crée la créature et qui donne son nom au titre du livre puis du film. Alors ça ne s'appelait pas Le Retour de Frankenstein ni Frankenstein 2, ça s'appelait La Fiancée de Frankenstein, puisque comme vous pouvez le deviner, eh bien dans ce second opus, le Frankenstein, donc revenu d'entre les morts, crée à nouveau le monstre et lui crée une femme, en l'espèce la fiancée, qui dans le film s'appelait Mary Shelley, ce qui est quand même un peu douteux, et dont le rôle était interprété par Elsa Lanchester. Elle avait une chevelure que je ne peux absolument pas vous décrire. Allez la voir sur votre navigateur internet préféré. Une chevelure très expressionniste. Je la regarde tout en vous parlant. C'est sans doute ce qui me trouble. Alors cette fois, on a extrait un extrait musical un peu plus large. La musique, elle était toujours signée de Franz Waxman, La Fiancée de Frankenstein, The Bride of Frankenstein, 1935 dans 24 notes secondes.
Bite your tongue off. We don't believe in ghosts.
Nobody'd believe me. Right. I'll wash my hands of it. Let them all be murdered in the beds for all of me.
Voilà, vous l'avez compris, c'était vraiment un extrait de la bande originale de La fiancée de Frankenstein. Alors, on entendait la musique de Franz Waxman, mais on entendait aussi les voix de certains des interprètes. J'avoue que j'ai eu du mal à identifier le type de scène, mais on a retenu l'accent. Je ne sais pas, quelque part entre l'Écosse et le Pays de Galles, avec les R et tout ça. C'était plutôt bien. Je dois rectifier une petite erreur, j'avais mal lu ma petite fiche. Honte à moi. Elsa Lanchester interprétait bien le rôle de la fiancée de Frankenstein, accentuant encore la confusion, puisqu'en fait c'était la fiancée du monstre et non pas de Frankenstein lui-même. Et dans un prologue du film, elle jouait le rôle de Mary Shelley, discutant avec son mari et avec Lord Byron, qui était un ami de son mari. À cette époque-là, on avait comme ami Lord Byron. Elle jouait aussi donc le rôle de Mary Shelley, ce qui était évidemment une sorte d'allusion assez fascinante. Alors, les petites anecdotes sur les maquillages de l'époque rapportent qu'il fallait plus de 5 heures à Boris Karloff pour avoir le maquillage qu'il avait rendu célèbre 4 ans auparavant et 4 heures à sa fiancée, entre guillemets, bien sûr. 4 heures, dont sans doute 1h30 pour les cheveux déjà, entre guillemets, décrits. Je vous conseille d'aller sur Internet avec une cage qui était posée sur son crâne. Bref, qu'est-ce qu'il devait faire pour être un acteur de temps à autre. Signalons aussi qu'Elsa Lanchester était à l'époque, peut-être qu'elle l'est restée après d'ailleurs, la femme de Charles Laughton, un acteur anglais qui connut une brillante carrière aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis et qui est le réalisateur d'un film unique mais cultissime, La nuit du chasseur. Comment ça, vous ne l'avez pas vu ? Allez, on quitte l'émission. Non, on attend la fin de l'émission. Et après, on se précipite pour acheter le DVD. Parce que La nuit du chasseur, ça ne passe plus à la télé. On continue notre évocation de Frankenstein. Alors, on va sauter les années. Je vous l'ai dit, le film a accompagné les époques, les genres. Et dans les années 60, eh bien, les spécialistes du film d'horreur, ils étaient en Angleterre. Et c'était la firme Hammer qui avait, d'une certaine manière, succédé à la Universal en recyclant toutes les histoires de monstres. Alors, vampires, loups-garous et autres créatures avec un peu de science-fiction aussi. Mais il y en avait déjà dans les années 30, après tout, et l'un des plus grands réalisateurs du genre, eh bien, ce fut sans contexte le plus grand réalisateur du genre, Terence Fisher, qui tourna à peu près tout ce qu'il était possible de tourner en la matière dans ces années-là. Et évidemment, il s'intéressa à Frankenstein. Il y eut en 1957 Frankenstein s'est échappé. Il y eut le Frankenstein créé à la femme. Ça, je l'aime bien, celui-là. Il y eut Frankenstein et le monstre de l'enfer. Et il y eut en 1969 le retour de Frankenstein. Frankenstein Must Be Destroyed, qui là encore refaisait la confusion entre la créature et le baron. Enfin, en même temps, si vous tuez le baron, d'une certaine manière, vous tuez aussi la créature. Le baron, il était interprété par Peter Cushing, là encore un très grand habitué de ce genre, certainement l'un des acteurs les plus racés de l'époque. Et la musique du film, elle était signée du grand spécialiste Hammer, alors je vous préviens, ça déménage, James Bernard. Le retour de Frankenstein, mais n'ayez pas peur, c'est uniquement dans 24 notes secondes. fantasme noir de James Bernard pour un extrait de la bande originale du Retour de Frankenstein. Frankenstein Must Be Destroyed, un film de Steven Fisher sorti en 1969 et qui reprend donc le culte de Frankenstein. La Hammer aura consacré pas moins de 7 films à Frankenstein. Alors, j'ai déjà cité certains. On peut ajouter La Revanche de Frankenstein, L'Empreinte de Frankenstein et Les Horreurs de Frankenstein. Des fois, après, ça tourne toujours un peu en rond. Mais en tout cas, ces films-là, c'est du soigné. C'est un style qui tient tout à la fois au réalisateur, Terence Fisher, à des équipes techniques souvent les mêmes, James Bernard à la musique et quelques autres. Et puis, une façon très anglaise d'aborder des sujets. On va rester évidemment avec Frankenstein, par contre on va changer à la fois d'époque et je dirais de style, puisque nous allons cette fois écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1994 et qui s'appelle dans son titre original Mary Shelley's Frankenstein, autant dire un titre programmatique, c'est-à-dire l'idée d'être au plus près du roman de Mary Shelley évoqué au début de cette émission. Et il est vrai que le film l'était, même si évidemment les puristes relevèrent quelques différences entre le roman lui-même et que je vous conseille de lire, je l'ai déjà dit ça, et le film. Mais le problème, c'est que le film fut un échec que patent et que, à la limite, on peut le comprendre un peu. Il était signé de Kenneth Branagh, qui s'était octroyé le rôle de Frankenstein, donc de Victor Frankenstein. Quant à la créature, c'était Robert De Niro. Ben oui, parce que Gérard Depardieu avait refusé le rôle. Ouais, alors déjà, ça partait pas forcément très très bien. On n'est pas sûr que le héros de Taxi Driver était la personne la mieux à même de succéder à Boris Karloff et à quelques autres. Ma foi, il s'en tira à sa manière habituelle, c'est-à-dire que plus Robert De Niro que créature de Frankenstein, si vous voyez ce que je veux dire. Et le film fort coûteux, dont le producteur était Francis Ford de Coppola, eh bien, fut un échec absolument patent. Alors, il y a peut-être des choses à en sauver, mais évidemment, on est dans 24 notes secondes. Il y a au moins la musique à en sauver. Elle était signée de Patrick Doyle, qui est toujours, à ma connaissance, le musicien favori de Kenneth Branagh. Et on s'en écoute dans 24 notes secondes, un large extrait. Frankenstein, 1994. We'll be right back. Voilà un extrait magistral de la bande originale de Frankenstein, vous l'auriez deviné, une musique de Patrick Doyle, un film de Kenneth Branagh tourné en 1994. Et on va se quitter avec les derniers avatars du mythe, comme quoi on peut mettre Frankenstein à toutes les sauces. Moi Frankenstein au Québec et I Frankenstein dans les autres pays du monde. Un film basé sur un comics que je ne connais pas, j'avoue, qui s'appelle I Frankenstein. Vous l'auriez deviné, Kevin Grevioux, c'est lui qui a écrit le comics et qui voit la lutte entre le docteur Frankenstein, alors cette fois il n'y a pas de méprise entre le docteur et sa créature, lutter contre des démons et des gargouilles menées par Naberius, un méchant prince des ténèbres interprété par Bill Nighy, qu'on voit plutôt dans les comédies britanniques et qui est moyennement convaincant dans ce truc-là, un peu comme dans les films Underworld, si vous voyez ce que je veux dire. Ma foi, le résultat sinon est plutôt plaisant et les effets spéciaux le sont aussi. Aaron Eckhart joue le rôle d'Adam Frankenstein. Là, ça a tout du programmatique. Quant à la musique, elle est signée de Johnny Klimek et de Reinhold Hild. Si vous voulez mon avis, c'est les fils illégitimes de Hans Zimmer, ces gars-là. Allez, dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.